pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
En 1998, au Havre, l'usine de thé Fralib, qui appartient au groupe Unilever, ferme ses portes. Sont voués à la disparition 250 emplois. Seuls 52 d'entre eux seront sauvés, mais pour cela, les familles doivent déménager à Gémenos, à 40 km à l'est de Marseille, où s'implantera une nouvelle usine Fralib d'envergure européenne. Pour convaincre les salariés de partir, on vante les atouts du site, les plantes provençales, les arômes naturels. En septembre 2010, soit 2 ans plus tard, Unilever annonce pourtant à nouveau la fermeture de la nouvelle usine de Gémenos pour la délocaliser en Pologne et en Belgique. Le verdict est sans appel, l'unité n'est pas assez rentable. Pourtant cette année-là, Unilever France a réalisé un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars. Pas forcément de quoi se serrer la ceinture. Rappelons également que le groupe Unilever, ce ne sont pas seulement les thés éléphants, mais aussi Axe, Lipton, Ben & Jerry, Magnum et autres glaces, lessives ou dentifrices. Avec la fermeture de l'usine, 182 personnes perdront leur emploi. C'est alors le début d'un bras de fer qui dure 1336 jours et à la suite duquel la marque 1336 sera d'ailleurs créée en référence à cette lutte. Et 3 ans plus tard, en 2014, l'usine Fralib deviendra une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative et participative, dans laquelle les salariés, tous associés ou presque, détiennent au minimum plus de la moitié du capital. Le combat des Fralib devient vite exemplaire. En janvier, sur le site de Gémenos, on organise les premières rencontres européennes de l'économie des travailleurs. Des ouvriers venus des quatre coins d'Europe, au parcours similaire, échangent avec des syndicalistes d'Amérique du Sud. La même année, près de Carcassonne, les crèmes glacées Pilpa se transforment elles aussi en société coopérative, la Fabrique du Sud. En 2015, François Hollande visite la nouvelle entreprise et repart avec une promesse, le thé de Gémenos sera servi à l'Élysée. 2 films sur eux seront réalisés, l'un en 2011 et l'autre en 2016. Certains salariés en fin de l'entreprise ont même monté une pièce de théâtre, 1336 jours de lutte. Et cette année, au Festival Off d'Avignon, on pourra aller voir 1336 paroles de Fralib, mise en scène par Philippe Durand. En attendant aujourd'hui, c'est dans les pieds sur terre, Olivier, Yves, Henri, Rim, Raymond et Nadine racontent leur lutte. C'est jusqu'à 14h sur France Culture, au micro de Charlotte Bien-Aimée.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, moi, c'est Olivier. Donc, je suis plus de 30 ans chez Unilever, à Fralib, technicien de maintenance.
Je suis Rim. J'ai été pendant 8 ans opératrice polyvalente labo et ligne.
Bon, moi, je suis Omar et je suis cariste logistique. Je suis aussi syndicaliste, élu du personnel pendant la lutte.
Je suis Raymond, 20 ans à Fralib.
Je m'appelle Yves, je suis rentré en 97 pour être aromatiseur. Et donc ça veut dire que j'aromatisais le thé et les infusions. Mmh. À l'époque, dans les années 90, donc c'était de l'aromatisation naturelle. On travaillait avec un thé qui était vraiment de très belle qualité. Il y avait différents contenants. Il y avait des sacs, il y avait des fûts et surtout il y avait des odeurs. On travaillait avec des épices, des fruits secs râpés et on travaillait avec des matières nobles. On travaillait avec des gousses de vanille, avec des pétales de rose, avec des arômes naturels, du jus de citron, etc. Et là, chaque feuille était aromatisée. L'aromatisation, ben, c'était de la cuisine. Parce que moi j'étais content à l'époque de travailler à l'aromatisation parce que ben, j'étais fier du produit que je créais. Et après, on est passé dans les années 2000, ça a commencé à se dégrader. On est passé sur des arômes synthétiques qui vont dégager leur saveur au contact de l'eau chaude. Donc, ce qui fait que tout le savoir-faire qu'on avait, ben, il n'y en avait plus besoin. Puisque là, c'est des billes blanches, c'est des petits cristaux blancs qui vont dégager leur saveur au contact de l'eau chaude. Et on passe d'une cuisine à une bétonnière. Puisque là, il suffit d'appuyer sur un bouton vert pour mettre en marche une bétonnière avec du thé et des arômes. Donc, c'est à ce temps-là qu'ils ont dégraissé l'aromatisation, puisqu'ils n'avaient plus besoin d'avoir des personnes qualifiées, n'importe qui appuie sur un bouton, c'est une bétonnière. donc ces arômes synthétiques, évidemment, c'est beaucoup moins cher à produire, donc c'est beaucoup moins cher à acheter que des arômes naturels. Ils gagnaient sur le temps aussi de fabrication du produit, mais ils ont aussi rogné surtout sur l'épaisseur du carton, sur les fils coton qui relient l'étiquette au sachet, sur les salaires. Donc l'ambiance avant du Nilover, c'est créer la division pour qu'il n'y ait pas de cohésion dans l'usine. Donc ils mettent en place des différences de salaire, ils mettent en place des primes de productivité, des primes de scie, etc., etc. C'est les guerres entre les services, les guerres entre quarts, quart du matin, quart de nuit, quart d'après-midi, ce qui fait que tout le monde se tire dessus. Et de là, il arrive un nouveau directeur. Voilà, il est arrivé fin 2007 et en fait, lui, il est arrivé pour fermer l'entreprise. Son boulot, c'était de mettre en place tous les indicateurs au rouge. Donc la première chose qu'il a fait, c'est dégrader les conditions de travail. C'est-à-dire, nous on demandait à ce qu'on ait beaucoup plus de mécaniciens sur les lignes. Lui, il en a supprimé. Donc ce qui fait que la machine, après, elle n'arrêtait pas d'avoir des pannes. Et donc toi, tu galérais pour produire, donc tu produis moins. Donc ça correspond à ce qu'ils veulent, à dire que l'usine n'est pas rentable, etc. Voilà. Moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, très peu de temps avant, il y avait 4 personnes pour une machine. Une personne qui démarrait la machine, une personne qui l'alimentait, une personne qui mettait les sachets dans les boîtes manuellement et le technicien qui entretenait la machine pour une machine. Avant la fermeture, on était pour une opératrice ou un opérateur pour 4 machines.
Vous pouvez être le meilleur opérateur du monde, eh ben, vous n'y arrivez pas. À un moment donné, vous êtes face à une machine et vous ne la comprenez plus. Vous regardez la machine et vous disiez, mais pourquoi je suis là, quoi?
Donc ils ont annoncé la fermeture de l'usine le 28 septembre 2010 par une réunion avec leur petit blabla, leur expliquant qu'ils étaient vraiment désolés pour nous, mais voilà, il n'y avait aucune solution possible. Mais par contre, parce qu'ils sont tellement désolés pour nous, ils nous promettent un reclassement, ils nous promettent qu'ils vont s'occuper de nous, ils nous promettent des emplois dans le groupe, ils nous promettent même des emplois en Pologne. Et nous, on sait par expérience que tout ça, c'est bidon, quoi.
Et on ne comprenait pas, parce qu'en fait, ici, le site était assez moderne, on avait tout un tas de bonnes machines qui pouvaient faire fonctionner le site, on savait qu'il était rentable, on avait des experts qui ont travaillé sur le site, on savait combien de bénéfices il dégageait, mais la rentabilité ne suffisait pas, et pour quelques euros de plus, en fait, ils étaient capables de délocaliser une production comme la nôtre. En fait, ils ne comptent pas les humains dans tout ça. C'est pour eux, on est un matricule.
Ah oui, oui. Moi, je me souviens qu'Olivier, les sorties de réunion, il était décomposé. Et il nous annonce la fermeture du site. Voilà. Et là, vous avez vite la haine qui monte. Hein. Vous avez envie de les tuer tous. Hein.
Moi, c'était ma première boîte après mes études. Donc, en plus, tu connais la grandeur du groupe Unilever. Donc, tu te dis, bingo, tu as signé ton CDI, t'es tranquille, quoi. Je veux dire, j'ai même pris un crédit pour 25 ans. Donc, tu reçois l'annonce comme une claque. Tu t'en prends plein la gueule, quoi. Vous avez la rage. Puis vous avez envie de mettre cette rage en positif. Vous la mettez dans la lutte, quoi. Toute la rage que vous avez, vous y allez et vous foncez, quoi. Vous foncez.
Donc, on s'est dit, on va se battre. On ne va pas se battre pour du pognon, on va se battre pour l'emploi.
Très rapidement, on se met en ordre de bataille et on dit, il n'y a pas un boulon qui sortira de cette usine. Ils veulent partir, qu'ils partent. Mais les machines, elles sont à nous et l'outil industriel, il va continuer à vivre.
Procédure, plan social, etc. On casse le premier plan social par le juridique. On est réintégré, on redevient salarié. Et bien, il nous rebalance un autre plan social.
Et là, en juillet, le juge nous déboute de la demande d'annulation du plan social. Et donc là, on fait appel de la décision, nous. mais la direction a la possibilité, puisque l'appel n'étant pas suspensif, de mettre en place le deuxième plan social. Donc du coup, la direction, grosso modo, on est l'été 2011, nous dit partez en vacances tranquille, nous on est gentils, prenez même plus de vacances, ils nous le disent comme ça, hein. Prenez plus de vacances et puis on vous licenciera pas avant fin août. On attendra la rentrée en septembre, on est des gentils, on va pas vous licencier pendant l'été quand même. Donc prenez vos vacances, partez. Nous, vous savez très bien ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que les gens partent très loin et pendant ce temps-là, ils auraient vidé l'usine. Donc nous, on leur a dit non, on prend pas plus de vacances que ce qu'on en a le droit. Et puis les vacances, de toute façon, on va les passer dans l'usine. En surveillance des machines, donc on surveillait l'outil industriel.
Et qu'est-ce que vous faisiez toutes ces journées?
On mangeait ensemble, sanglier.
Nadine qui faisait les crêpes, Jean-Michel qui faisait la cuisine.
Et on jouait aux cartes, les hommes jouaient aux boules, ballon. Tennis, ballon.
Souvent nos familles venaient nous rendre visite ici. Donc il y avait les enfants, la famille, faisaient leurs devoirs au labo, il y avait plein de trucs comme ça, quoi.
Moi je menais ma fille, elle dormait dans la GECO, là. On faisait les nuits dans la GECO.
Donc fin août, il licencie plus d'une centaine de salariés. Donc c'est à partir de là qu'on décide la première occupation.
Et ça a été très rapide, c'est notre usine. Donc le directeur, il allait sortir pour manger. Et quand il est revenu, c'est nous qu'on tenait le portail. Et donc il ne pouvait plus rentrer.
Il part au restaurant et il y reste.
Maintenant, l'usine est à nous. On a bloqué l'usine.
Voilà.
Ouais, c'est pas mal.
Ça s'est passé en souplesse.
Tu l'as bien résumé.
Et on occupe l'usine pendant la bataille juridique pour casser le deuxième plan social.
On a une organisation qu'on met en place avec des tours de garde pour faire en sorte qu'il y ait toujours du monde sur le site. Et donc, le week-end notamment, donc on avait toujours du monde qui dormait. Et donc là, ce coup-là, c'était Omar qui était dans l'usine. Et donc, il s'est levé un lundi matin, début novembre, Omar. Ils étaient deux ou trois dans l'usine avec lui pour surveiller l'usine. Et puis, à 6h du matin, il a vu débarquer la direction. Puis là, une trentaine de gardes du corps.
Alors, c'est des personnes qui viennent des pays de l'Est. Donc, nous, on les appelait les Golgothes, hein, parce qu'ils faisaient 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Plus le recrutement des petites frappes de Marseille.
Et leur volonté, c'était de rentrer dans l'usine et que nous, on n'y rentre plus.
Et on se retrouve dans la situation où est-ce qu'il y a toute la milice patronale qui est devant le portail. Et tous mes copains derrière le portail.
Donc, vous avez placé une milice?
Ouais. Oui, c'est une milice patronale, quoi, c'est clair. C'est les gros bras qui payent pour casser les mouvements, quoi.
Et moi, je faisais la navette, je rentrais, je menais le café, le chocolat et tout, avec un truc, avec un repose-plat, là. Et à un moment donné, au bout de la 8e fois, là, il me met le doigt sur la poitrine et il me dit, toi, tu rentres au plou. Comme ça, il me dit, mais une espèce de malabar. Et ça a démarré de là. Donc, je lui ai enlevé la main, je l'ai poussé. Et à ce moment-là, il en arrive 3 ou 4, il me prenne, il m'amène à l'intérieur de l'usine. Un, il me fait une clé de bras, l'autre, il me tenait l'autre bras. Et ça a été vachement complexe. On a la petite Marie, la sœur à Raymond. Elle arrive en courant, elle est petite, elle fait 1m50, elle doit faire. Elle arrive en courant, elle saute sur le. Mais elle a sauté sur le vigile. Et c'est là que moi, j'arrive à me dégager. Bon, là, j'arrive bien à me débarrasser des deux. Et j'arrive, et devant moi, il y a tous les vigiles avec le portail, avec tous mes copains derrière. Et donc, je suis arrivé, j'ai poussé tout le monde. On a organisé un mall devant et on a pu rentrer tous ensemble.
Donc, on a eu 5 blessés de notre côté parce que c'est des mecs quand même. Ah ben oui, mais c'est des mecs. Nous, on fait du thé. On fait du thé. Et en face, vous avez des gens qui sont aguerris. Art de combat, matraque, ils avaient des gazeuses, etc. Quoi. C'est pas des enfants de cœur. Mais le nombre et la détermination a fait que, ils ont dû partir. On a réussi à les pousser dehors. Et donc là, on a eu la solidarité de tous les camarades de la France. Il y avait des gens qui posaient une semaine de congé, des copains, et qui venaient passer la semaine à garder l'usine. Et en face de nous, on avait les sbires qui tournaient en voiture autour de l'usine pour montrer qu'ils étaient là, etc., à faire de l'intimidation. Quand la journée, on disait, les copines, ils peuvent venir la journée, tant qu'il fait jour. Et quand les copines partaient de l'usine, elles se faisaient chasser en voiture par la milice.
Et le com de l'histoire, c'est que 10 jours après, on gagne la deuxième procédure en appel. Derrière, on a été confirmé par un juge de la cour d'appel qui dit, vous devez réintégrer tout le monde, démarrer la procédure à son début et redémarrer l'usine aussi surtout. Là, c'est un truc de, une explosion de joie phénoménale. Ici, il y avait une fête. Mais c'était incroyable. Tout le monde pleurait, en fait. Gérard, j'ai jamais vu. Gérard, pendant 3 jours, il a pleuré. Gérard Cazorla, l'autre élu syndical.
Donc, on casse les plans sociaux parce qu'ils ne sont pas légaux. Ils ne répondent pas aux normes législatives, que ce soit dans les raisons de la fermeture de l'entreprise, que ce soit dans la façon d'où ils présentent les choses, etc. C'est, on prouve que chaque fois, tout ce qu'ils disent, c'est faux.
Moi, je suis en admiration devant notre avocat. Il fallait voir, il arrivait au tribunal de grande instance, il sortait du métro, il arrivait avec sa valise. Alors que face à nous, on avait une armada juridique. Une armada, ils arrivaient en voiture comme dans les films américains. Ils sortaient, les gardes du corps les protégeaient, ils avaient une porte dérobée par laquelle ils passaient. Ils étudiaient notre dossier, mais en permanence. Et en permanence, ils envoyaient des courriers juridiques, que ce soit aux élus, que ce soit aux salariés. Et ça, notre avocat, il les a mis, il les a battus à plate couture, à toutes les procédures. Il était trop fort. Il arrivait, tout le monde avait des post-it, ils avaient des dossiers monstrueux. Lui, il arrivait, rien que dans sa tête, il avait notre dossier. Il parlait, il nous filait la chair de poule à tous. Parce que ce qu'il racontait devant la barre, ce qu'il racontait devant le juge, c'était tout ce qu'on vivait, nous, en interne, qu'on savait, qu'on connaissait. Il connaissait notre dossier, des fois, bien plus que les salariés qui travaillaient ici à l'usine. Et ça, aussi, c'est moi, je tire mon chapeau.
Voilà, c'est grandiose, quoi. Et donc là, pareil, on repart, on est réintégré, on est salarié, donc il faut que tu nous apportes du boulot.
Alors, ils redémarrent l'usine, ils vous réintègrent ?
Ah, ils redémarrent l'usine, non, ils le font pas, ils font semblant, parce que entre-temps, ils ont fait des transactions avec certains. Il leur avait donné 60 000 euros en plus de l'indemnité de licenciement pour qu'ils quittent le conflit et qu'ils renoncent à toute action juridique. Donc là-dessus, on n'est que 76 à avoir refusé ces sommes-là et continué le combat. D'autres ont fait un choix individuel. Nous, on était dans un combat collectif.
Et à chaque plan social, eh bien, le chèque était un peu plus gros. Donc au départ, c'était 35 000 euros. Au deuxième, ça a été 60 000 euros. Donc tu as un problème parce que ben, la vie continue. Tu ne travailles pas. Mais tu es constamment à l'usine, jour, matin, nuit, en droite, à gauche. Donc aussi, pour le conjoint, c'est aussi très, très dur à supporter. Mmh. Moi, par exemple, je suis devenu célibataire pendant la lutte. Mais il y a des copains aussi. Et, il faut que tu te justifies aux amis, à la famille, de ce qui est dit dans les journaux qui te massacrent. Donc, c'est très, très dur à supporter. Hein. Nous, souvent, on a vu des copains pleurer, quoi, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Quoi. Et puis, on t'enlève du pognon. Donc tu rajoutes une couche et, cerise sur le pompon, on t'offre du pognon pour partir. Il y a des copains qui n'en pouvaient plus et qui sont partis. Et donc ils ont arrêté la lutte, mais ils sont partis en pleurant. Ils sont allés directement signer avec la direction. Et pareil, ils nous annoncent un nouveau plan social.
Un troisième.
Ouais, un troisième, un nouveau plan social. Et de là, ils nous disent, on va vous parquer dans le parking, on va mettre des grillages parce qu'on va démonter l'usine. Voilà, là, ils nous le disent carrément. Et le lendemain, on a repris l'usine. Donc voilà, on est arrivé en fait un matin, très bonne heure. Donc on devait être, je sais pas, une centaine. On a investi, c'était la guérilla, on a investi l'usine, quoi. Des copains qui sont passés par l'intérieur de l'usine, des copains qui sont passés par le premier portail, par le deuxième portail, pour submerger les vigiles qui étaient à l'intérieur avec les chiens, etc.
Mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'elle est encore sans violence. Ça s'est super bien passé. On avait le maître chien avec son chien qui a dû arriver. Il a eu une peur effroyable. Il est rentré dans son petit truc, là, de son kangou. Il est rentré, il faisait. Et nous, c'était notre crainte aussi qu'il puisse attaquer quelqu'un, ce chien, et qu'il puisse à un moment donné faire un blessé ou être comme ça. Donc, celui de l'accueil, il n'a pas fait d'histoire, il est sorti, on a récupéré le site. Mais après, tous les caristes, on était là en bas, on avait tous un clerc chacun, et on s'organisait de manière à fermer vraiment le site, de manière à ce qu'il ne puisse pas revenir. On avait soudé les portails, mis les barbelés. Le site, on s'est organisé derrière pour faire vraiment un siège, c'est-à-dire qu'on a mis les compacteurs, on a fait en sorte qu'aucune entrée n'était disponible pour eux, à part celle du portail vert, que nous, on surveillait grâce à l'accueil, et qu'on mettait toujours quelqu'un devant, pour être sûr qu'il y avait personne qui venait. On s'est organisé aussi de manière à faire des rondes sur le toit, parce qu'on a un toit plat qui nous permet de pouvoir voir arriver de loin. Donc on était vachement bien organisé. On jouait aux cartes, on avait acheté une table de ping-pong, on avait fait tout un tas de trucs, et on a fait notre terrain de boules, et ça permettait à tous les gens qui venaient nous voir d'avoir plus ou moins un passe-temps, parce que c'était vachement long, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de garder le site, c'était long. Malgré qu'on faisait des initiatives, qu'on faisait des réunions, qu'on avait des débats, qu'on faisait tout un tas de... On s'organisait, on avait la troupe de Los Fralibos qui commençait à jouer, ils étaient installés en haut, ils commençaient à jouer de la musique, ils commençaient à faire un peu des tubes. Los Fralibos, Los Fralibos. Et il n'y avait pas une seule semaine qui passait sans qu'on fasse une initiative. Dès novembre 2010, on a lancé le boycott de Lipton. On allait dans les rayons avec un chariot et on vidait tous les rayons des produits Unilever. Et ça, une fois par semaine, on en faisait une d'initiative. Et peu importe le magasin, on prenait Carrefour, on prenait Jean Casino, on prenait Auchan, mais sur à côté, là, on en a fait deux ou trois de Auchan, mais lui, on l'a fait trois fois, lui. Lui, à chaque fois qu'il nous voyait arriver, il se mettait les mains sur la tête. Non, pas eux. Ça fait qu'on vidait tous les rayons des produits Unilever, parce que, attention, il y en a beaucoup, hein, des produits. Des fois, il y avait 120 chariots.
Mais ça, ça les a tués aussi. Ce qui est arrivé à des journées nationales de boycott. C'est un bras de fer. Qu'à un moment donné, ils disent qu'on a tout saccagé dans l'usine, nous, on fait des journées portes ouvertes. Pour que n'importe qui puisse venir voir pourquoi on se battait. Et là aussi, ça a été énorme. L'usine, on en prenait soin, c'était notre bébé. Quoi. C'était, on attendait, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton, tout redémarrer. Et chaque fois, on les a contrés comme ça. Donc pendant tout le temps de la lutte, la direction poussait les gens à partir donc, en faisant des chèques. Et en 2014, donc, on est tous convoqués un par un au Prud'homme pour passer devant le juge et avec notre avocat et avec l'avocat de la multinationale et le directeur financier. Donc tu as 4 ans de lutte, à savoir que 4 ans de lutte, c'est énorme en temps, c'est énorme en énergie, c'est énorme psychologiquement, etc. etc. Donc on passe un par eux. Et le truc, c'est donc tu rentres. Donc, Monsieur Baroni, oui, voilà, vous acceptez 90 000 euros, on vous fait le chèque, et puis vous signez le papier comme quoi vous dédouanez Unilever, etc. etc. Ben non, tu m'achètes pas. Et tu sors. Et donc, avec les copains, tu discutes. Non, moi, j'ai pas signé. Mais tu vois, certains se regardent un peu en chaîne de faïence. Et il est sorti l'avocat en disant, mais les gars, il n'y a personne qui a signé. Et là, putain, c'est énorme. C'est énorme. Il n'y a personne qui a signé. Alors que Unilever, ils avaient dit à notre délégué Olivier, ah, vous aurez des surprises tel jour, vous verrez. Et ben voilà la surprise que personne n'a signé. Et là, tu repars parce que ça te rebooste. On est toujours debout, on ne lâchera pas. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une négociation finale où ils ont signé l'accord de Flin de Compi. Donc, on a commencé à créer notre coopérative.
Le lendemain, c'était la fête ici, quoi. C'était l'apothéose, c'était les gars avec les fumigènes, c'était un match de foot de l'OM qui gagnait l'Europa League ou je sais pas moi. On y croyait sans y croire, ça, moi je l'ai vécu comme ça, je sais pas vous, mais moi j'ai mis 2 mois à vraiment réaliser qu'on avait enfin gagné quoi.
On savait pas qu'on allait sortir aussi grandi sur l'accord de fin de conflit. Qui nous donnait l'outil industriel, qui nous donnait un fonds de roulement, qui nous donnait tout ce qu'on avait en fait considéré en grève, en occupation du site, tout ça, ils nous ont tout remboursé, tous les salariés. On n'a pas été payé pendant des fois 7 mois, 4 mois, on était plein d'astreintes, on était, bien sûr, donc on se retrouvait, on avait fait tous les calculs, on a réclamé cet argent-là qu'ils nous devaient, et ils ont tout mis sur l'accord de fin de conflit, sur l'accord de fin de conflit aussi, qui nous donnait les machines pour l'euro symbolique, qui nous permettait de pouvoir produire à notre propre nom, avec des brevets qui sont d'Unilever, mais ça c'était quand même un accord de fin de conflit qui nous permettait de voir l'avenir un peu plus rose.
Et donc on a créé la SCOP, donc il y avait des commissions sur la politique salariale, il y avait des commissions sur les projets d'investissement, il y avait des commissions sur le marketing, et puis chacun était libre d'aller dans ses commissions. C'est comme ça que tout le monde s'approprie le truc. Et puis après c'est par des votes qu'on a défini plein de choses. Quoi.
C'est qui le patron?
C'est pas un mot quoi, c'est pas un mot quoi. qu'on aime ça. Le patron, il n'y en a pas de patron. On a un directeur qui nous représente. Mais ce n'est pas le patron. Voilà, le patron, c'est nous.
Déjà, on vient travailler, on sait qu'on n'a pas de grand chef qui va venir nous donner des grands ordres. On sait ce qu'on a à faire. Et c'est beaucoup plus motivant que pour travailler pour des gens qui vont se gaver à la fin de l'année.
Et donc, qu'est-ce que vous faites comme produit maintenant?
Maintenant, on a deux boîtes. Donc, on a ces boîtes-là, 1336. 1336, ça représente le nombre de jours et de nuits d'occupation de l'usine. On a tenu à ce qu'il y ait de la lutte dans notre boîte, parce que c'est nous, c'est notre histoire. Donc là, c'est les produits naturels. On n'est que sur du naturel. Et d'ailleurs, ça sent encore. Voilà. Où on a des thés, où on a des infusions. Et on a notre gamme Scopti, la gamme bio. Donc on attaque notre troisième année d'existence. Donc on a le chiffre d'affaires qui progresse. Mais on n'est pas encore au point d'équilibre. Une Scope, pour être pérenne, il faut qu'elle passe les 5 ans. Bah, donc nous, on a 3 ans. Donc on a encore 2 ans à se battre pour montrer qu'on va être pérenne. Donc voilà, ça se développe au fur et à mesure. Et on verra bien. On est allé jusqu'au bout. Pour la lutte, là, on fait tout pour y arriver. Mais on est confiant. On a une grande détermination.
Cette marque est Scopti. On y croit. Et ça va marcher parce que on s'est battu pendant 1336. Il faut qu'on se batte encore pendant des années. Et on le fera. Pas pour nous. Pour nous, c'est notre emploi. Mais moi, j'aurais vraiment gagné. C'est que le jour où j'embaucherai une personne en plus de ceux qui se sont battus. Et là, je me dirais, ce que tu as fait, c'est génial. Parce que je ne me suis pas laissé faire. Et à un moment donné, eux, ils sont capables de faire. Et pourquoi pas nous? Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et la lutte des Fralibes, un reportage de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Olivier, à Yves, à Henri, à Rime, Raymonde et Nadine, ainsi qu'à tous les ouvriers de la Scopti. Sandrine Chaperon, c'est notre attachée de production. Eliana Valken, c'est notre stagiaire. Des commentaires, des impressions, des suggestions, des likes, des tweets et des retweets, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.